Chapitre 16. Que dire de Paris ? Ce fut comme un délire. Je n'y vécus que 3 semaines durant lesquelles je dépensais mes 100 000 francs. Les autres 100 000, je les avais donnés à Blanche en espèces sonnantes. 50 000 à Francfort et 50 000 3 jours après à Paris. Et les 100 000 francs qui te restent, tu les mangeras avec moi, mon Uchitel. Elle m'appelait toujours son Uchitel. Il est difficile de s'imaginer une âme plus vénale et plus avare que celle de cette fille. Pour son propre argent, certes, elle en était peu prodigue. Quant à mes 100 000 francs, elle me déclara catégoriquement un beau jour qu'elle en avait besoin pour son installation à Paris. De cette façon, dit-elle, je serai convenablement pourvu une fois pour toutes, et personne ne pourra plus entraver mes projets. Du reste, c'était elle qui tenait la caisse, et de ces fameux 100 000 francs, je ne vis guère que l'ombre. Elle ne me laissait jamais garder sur moi plus de 100 francs. « Pourquoi faire ? » disait-elle. « Pourquoi veux-tu de l'argent dans ta poche ? Tu ne peux rien avoir à en faire. » Je ne discutais pas. En revanche, elle dépensait cet argent sans compter pour son appartement. Quand nous y entrâmes, elle me dit solennellement « Vois ce qu'on peut faire quand on sait suppléer aux grands moyens par le goût de l'économie. » Oh, ce goût et cette économie valaient pourtant juste 50 000 francs. Chevaux, voitures, balles auxquelles étaient invités Hortense, Lisette, Cléopâtre, oh, de ces belles femmes, avaient pris l'autre moitié de mes 100 000 francs. Pendant ces soirées, je jouais le rôle stupide de maître de maison, traitant avec politesse des marchands enrichis et idiots, de petits officiers d'une effronterie et d'une sottise intolérables, des écrivassiers misérables et des journalistes qui, tous vêtus de fracs à la mode, gantés à la couleur de la saison, me parurent plus fats que nos pétersbourgeois, et pourtant. Ils essayèrent même une fois de s'amuser de moi, mais je leur faussai compagnie et en fus quitte pour aller faire un somme dans une chambre vide. Tout cela m'écœurait. C'est un Uchitel, disait Blanche. Il a gagné 200 000 francs et sans moi, il n'aurait pas su les dépenser. Dans quelques jours, il redeviendra Uchitel. Connaissez-vous une place qui lui convienne ? Oh, il faut faire quelque chose pour lui. Je buvais souvent du champagne, me sentant horriblement triste. Je vivais dans le plus bourgeois des mondes, où chaque sou était compté et pesé. Blanche me détestait durant les 15 premiers jours, je m'en aperçus. Il est vrai qu'elle m'habillait en dandy et nouait elle-même ma cravate, mais entre 4 murs, elle ne me cachait pas son mépris. Je ne m'en souciais point. Ennuyé et morne, j'allais tous les jours au château des fleurs, où je m'enivrais régulièrement chaque soir et apprenais le cancan, qu'on danse très mal, soit dit en passant. J'y acquis un certain talent qui me valut de la célébrité. Enfin, Blanche me comprit. Elle s'était imaginée que j'allais la suivre avec un crayon et du papier pour noter combien elle dépensait, combien elle volait et combien elle dépenserait ou volerait encore. Elle préparait des répliques pour chaque observation qu'elle attendait de moi. Et comme je ne lui en faisais aucune, elle répliquait d'avance, parfois très violemment. Puis voyant que je restais toujours silencieux, étendu sur la chaise longue et les yeux au plafond, elle fut profondément étonnée. Alors, cherchant l'explication de mon indifférence, elle l'attribua à la bêtise naturelle d'un Uchitel. Et elle cessa ses explications, pensant qu'elle chercherait vainement à me faire comprendre des choses qui dépassaient mon intelligence. Et elle me quittait pour revenir 10 minutes après. Ces scènes demi-muettes commencèrent quand elle changea son attelage contre un plus beau qui coûtait 16 000 francs. « Eh bien, Bibi, tu te fâches donc pas ?»« Non, tu m'ennuies, » disais-je en appuyant sur chaque syllabe. Mais cela lui parut si curieux qu'elle s'assit auprès de moi. « Mais vois-tu, ce qui m'a décidé, c'est que c'est une occasion. On peut revendre l'attelage pour 20 000 francs. »« Oh, je te crois, je te crois. » Les chevaux sont admirables, ça te fait une très jolie sortie. Oh, et puis assez là-dessus. Alors, tu ne te fâches pas? Oh, et pourquoi me fâcherais-je? Tu fais très bien de te pourvoir des choses qui te sont nécessaires. Tout cela te servira plus tard. Il faut que tu aies l'air de dépenser les rentes d'un million pour pouvoir en gagner le capital. Nos 100 000 francs ne sont qu'un commencement, une goutte dans la mer. Blanche ne s'attendait pas à de tels raisonnements. Elle tombait des nues. Comment ? C'est toi qui me dis ça ? Mais tu as donc de l'esprit ? Sais-tu, mon garçon, tu n'es qu'un Uchitel, mais tu aurais dû paraître prince. Tu ne regrettes donc pas que l'argent ait été si vite dépensé ? Oh, oh, qui s'en aille plus vite encore. Mais sais-tu, mais dis donc, tu es donc riche. Sais-tu, tu méprises tout de même trop l'argent. Que feras-tu ensuite, hein? Après, oh, j'irai à Hambourg et je gagnerai encore 100 000 francs. Oui, oui, c'est ça, c'est magnifique. Je suis convaincu que tu les gagneras et que tu les apporteras ici. Dis donc, mais je finirai par t'aimer pour tout de bon. Puisque tu es ainsi, je t'aimerai, je te promets de ne pas te faire une seule infidélité. Je ne t'aimais pas jusqu'à présent parce que je croyais que tu n'étais qu'un Uchitel, quelque chose comme un laquais, n'est-ce pas? Et pourtant, je l'ai toujours été fidèle parce que je suis une bonne fille. Tu mens, et Albert, ce petit officier basané, oh, je l'ai bien vu. Oh, mais tu es... Alors, ne mens pas. Crois-tu donc que je me fâche pour si peu? Mais je m'en moque. Je ne pouvais pas le chasser. Tu le connaissais avant que nous fussions vus et tu l'aimes. Seulement, ne lui donne pas l'argent, entends-tu? Alors, tu ne te fâches pas pour cela non plus. Mais tu es un vrai philosophe, sais-tu? « Un vrai philosophe !» s'écria-t-elle toute transportée. « Eh bien, je t'aimerai, tu verras, tu seras content. » Et en effet, de ce moment, elle s'attacha véritablement à moi, amoureusement, et ainsi se passèrent nos 10 derniers jours. Je ne m'étendrai pas là-dessus, ce serait un tout autre roman que je ne veux pas écrire ici. Je ne songeais plus qu'à en finir le plus vite possible. Nos 100 000 francs durèrent donc un mois, ce qui ne laissa que de m'étonner, car Blanche, en ayant dépensé 80 000 pour elle-même, il n'en restait que 20 000 pour la vie. Blanche, qui, vers la fin, était presque sincère avec moi, du moins sur certaines questions, m'avoua que les dettes qu'elle avait dû faire ne serait pas à ma charge. Oh, je n'ai pas voulu te faire payer toutes les notes, me dit-elle. J'ai eu pitié de toi. Remarque bien qu'une autre n'aurait pas eu tant de scrupules et qu'il serait à cette heure en prison. Tu vois bien que je t'aime et que je suis bonne. Mais que ce maudit mariage va me coûter. En effet, il y avait un mariage à l'horizon. Cela survint à la fin du mois, et je pense que c'est là que passa le reste de mon argent. C'est alors que je donnai formellement ma démission. Voici comment. Une semaine après notre installation à Paris, le général arriva. Il se présenta aussitôt chez Blanche, et n'en sortit plus guère, quoiqu'il eût quelque part un petit appartement. Blanche l'accueillit avec joie, riant et criant, et se jeta même à son cou. Elle ne le lâcha plus. Il la suivait partout, au bois, au boulevard, au théâtre, chez ses amis. C'était un emploi que le général pouvait encore tenir. Il était présentable, convenable, d'une taille au-dessus de la moyenne, avec des favoris teints et ses grandes moustaches de cuirassier. D'excellentes manières, d'ailleurs. Il portait très congrûment le frac et exhibait toutes ses décorations. Enfin, tel cavalier était très bon à montrer au boulevard, très bon et très recommandable. Ce pauvre homme ne se tenait pas de joie, car il ne comptait guère sur un tel accueil. Il était dans un perpétuel transport de félicité fébrile que je me gardais bien de troubler. Notre départ de Wolontenbourg l'avait laissé comme fou. On l'avait condamné à un traitement rigoureux, mais un beau jour, il s'échappa. Servir de laquais à Blanche était pour lui le seul traitement efficace. Toutefois, les symptômes de son mal persistèrent encore longtemps après. Je pus m'en apercevoir durant les longues heures que je passais avec lui quand Blanche disparaissait pour tout un jour. Oh, on l'eût retrouvé chez Albert. Il jetait autour de lui d'étranges regards, comme s'il cherchait quelque chose. Mais, n'apercevant rien, il perdait le souvenir de ce qu'il désirait et tombait en torpeur, jusqu'au moment où Blanche, gaie, vive, vêtue à miracle, apparaissait après s'être annoncée par un frais éclat de rire. Elle courait à lui, le secouait, même l'embrassait, cela toutefois rarement. Elle plaidait ensuite devant moi la cause du bonhomme. Elle était même, je vous jure, très éloquente. Elle me rappelait que c'était pour moi qu'elle avait quitté le général, qu'elle était depuis longtemps sa fiancée, qu'elle s'était engagée à lui par serment, qu'il avait abandonné sa famille pour elle, et qu'enfin j'étais son ancien serviteur, que je ne devais pas l'oublier, et que je devais avoir honte. Je gardais le silence. Je me mettais à rire, et tout finit par là, c'est-à-dire qu'elle me crut d'abord sot, puis elle s'arrêta à la pensée que j'étais bon et d'humeur très coulante. En un mot, je sus mériter la bienveillance de cette respectable fille. Une bonne fille, d'ailleurs, en vérité, à un certain point de vue. Je l'avais d'abord mal comprise. « Mais tu es un homme intelligent et bon, » me disait-elle vers la fin, « et je regrette seulement que tu sois si sot. Tu n'auras jamais rien. Un vrai russe, quoi, un kalmouk. » Elle me chargea plusieurs fois de promener le général, à peu près comme on ordonne à un laquais en livrée. Je menais donc le bonhomme au théâtre, au bal Mabille, au restaurant. Blanche me donnait pour cela de l'argent. Pourtant, le général n'en manquait pas et aimait fort à étaler son portefeuille devant les gens. Peu s'en fallut un jour que je lui eusse employé la force pour l'empêcher d'acheter une broche de 700 francs qu'il avait vue au Palais Royal et qu'il voulait coûte que coûte offrir à Blanche. Qu'était-ce pour elle qu'une broche de 700 francs? Le général ne possédait pas plus de 1 000 francs, et je ne sais même pas d'où cet argent lui venait. La générosité de M. Asselet était l'explication la plus plausible, d'autant plus qu'il avait pu payer à l'hôtel la note du général. La conduite du bonhomme à mon égard était de nature à me faire croire qu'il ne soupçonnait même pas mes relations avec Blanche. Je suppose qu'il s'expliquait ma présence chez elle en m'attribuant quelque emploi comme de secrétaire particulier, voire de domestique. Il me traitait de haut et même me réprimandait de temps en temps. Un matin, à l'heure du café, il nous fait rire aux larmes. Blanche et moi, il n'était pas susceptible à son ordinaire, mais ce matin-là, il se fâcha contre moi, je ne sais pas encore pourquoi, J'imagine qu'il ne le savait pas davantage lui-même. Brusquement, il se mit à proférer des paroles incohérentes, me traitant de gamin, disant qu'il m'apprendrait à vivre, etc. Blanche riait à se tordre. Enfin, on réussit à le calmer et on l'emmena se promener. Depuis quelque temps, je le voyais triste et j'avais le sentiment que, même quand Blanche était là, quelque chose ou quelqu'un lui manquait. Des mots lui échappaient où revenait le nom de sa femme. J'essayais alors de lui parler de ses enfants, mais il se dérobait aussitôt à la conversation. « Des enfants, oui, vous avez raison. » Un soir, pourtant, il fut expansif. « Ces malheureux enfants, me dit-il tout à coup. « Oui, monsieur, il faut les plaindre. »« Malheureux enfants, répéta-t-il plusieurs fois encore durant la soirée. » Un soir, un jour, je lui parlais de Paulina. Oh, il devint subitement furieux. « C'est une ingrate, dit-il, une méchante, une ingrate, la honte de notre famille. S'il y avait des lois, je l'aurais réduite, oui, oui, je l'aurais soumise. » Quant à De Griers, il ne voulait même pas entendre parler de lui. « Il m'a perdu, il m'a volé, il m'a égorgé. Ça a été mon cauchemar pendant 2 années entières. C'était... Oh, ne m'en parlez jamais. » Je m'aperçus qu'une intimité s'établissait entre Blanche et lui. D'ailleurs, elle m'en parla elle-même 8 jours avant notre séparation. « Il a de la chance, me disait-elle. La babouchka est cette fois-ci réellement malade et va mourir. Monsieur Astley vient de lui télégraphier. Il est le seul héritier. N'eut-il pas même cet héritage, je l'épouserai quand même. Il a toujours sa pension, il vivra dans une chambre à côté de la mienne et sera tout à fait heureux. Moi, je serai madame la générale. Je serai reçue dans le grand monde, c'était son rêve. Je deviendrai plus tard une Pontelstichler russe. J'aurai un château, des bougiques, sans compter mon million. Mais s'il devient jaloux, s'il exige, enfin, Dieu sait quoi, tu comprends. Oh non, il n'osera. D'ailleurs, n'aie pas peur, j'ai pris mes précautions. Je l'ai déjà forcé de signer plusieurs billets au nom d'Albert. À la moindre pécadille, je saurai comment le punir. Mais non, il n'osera même pas. Eh bien, épouse-le. On célébra le mariage sans aucune solennité, en famille, sans bruit. On invita Albert et quelques amis. Hortense et Cléopâtre n'en étaient pas. Le fiancé paraissait très content de lui. Blanche lui noua elle-même sa cravate, le coiffa, le pomada, et avec son habit de gala et son gilet blanc, il était très comme il faut. Très comme il faut, il est tout à fait bien, me déclara Blanche en sortant de la chambre du général, comme si cela l'étonnait elle-même. Je m'intéressais si peu à tous ces détails dont j'étais le spectateur distrait, que j'en ai presque perdu le souvenir. Je me rappelle seulement que Blanche ne s'appelait pas du tout de Comminges, que sa mère n'était pas du tout veuve Comminges. Son vrai nom était Duplacet. Pourquoi de Comminges et pas Duplacet ? Je l'ignore encore. Quant au général, cette révélation le combla de joie, et Duplacet lui parut infiniment plus joli que de Comminges. Dans la matinée du jour du mariage, déjà tout habillé, il se promenait devant la cheminée du salon en se répétant « Mademoiselle Blanche Duplacet ». À l'église, à la mairie, chez lui, Ce n'était plus du bonheur qui éclatait sur son visage, c'était de l'orgueil. Tous deux semblaient transformés. Blanche avait aussi une dignité toute particulière. « Il faut que je me compose un maintien tout nouveau, » me disait-elle très sérieusement. « Mais vois-tu, je ne peux pas encore prononcer correctement mon nom, le nom de mon mari, Zagorianski, Zagorianski, Madame la Générale de Zago, Zago. Ah, diable de nom russe! Enfin, Madame la Générale a 4 consonnes. Ah, comme c'est agréable, n'est-ce pas ?» Enfin, nous nous séparâmes et Blanche, cette stupide Blanche, avait presque les larmes aux yeux en me faisant ses adieux. « Tu as été bon enfant, » me dit-elle en pleurant. « Je te croyais bête et tu en avais l'air, mais ça te va. » Et en me serrant une dernière fois la main, elle s'écria « Attends !» Elle courut dans son boudoir. Et un instant après, elle m'apporta 2 billets de 1 000 francs. Je n'aurais pas cru capable de cela. Cela te servira. Tu es peut-être un très savant Uchitel, mais tu es si bête. Je ne veux pas te donner davantage, tu jouerais. Adieu. Nous serons toujours bons amis, et si tu gagnes de nouveau, viens chez moi, et tu seras heureux. Il me restait encore 500 francs, une magnifique montre de 1000 francs, des boutons de chemise en diamant et quelques bijoux. J'aurais pu vivre quelque temps sans souci. Je sais où trouver M. Astley. Je vais à sa rencontre. Il m'apprendra tout lui-même. Et puis j'irai directement à Hambourg, peut-être l'année prochaine. Passerai-je une saison à Rolandenburg, mais on dit qu'il n'est pas bon de courir 2 fois la chance à la même table. Chapitre 17. Voilà 1 an et 6 mois que je n'ai pas touché à ces notes. Aujourd'hui, triste et chagrin, je les rouvre pour me désennuyer. Je les relis, ça et là. Comme j'avais le cœur léger en écrivant les derniers feuillets. Du moins, sinon léger, j'avais le cœur plein d'espoir, de confiance. Voilà 18 mois de passé et qui me laissent plus misérable qu'un mendiant. Je suis perdu, mais trêve de morale, il n'est plus temps. Les gens peuvent me mépriser. S'ils savaient combien mieux que je comprends l'horreur de ma situation, ils m'épargneraient leur morale. Que la roue fasse en ma faveur un tour, un seul, les mêmes moralistes viendront me féliciter. Hé, je puis ressusciter demain. Je suis donc allé à Hambourg, mais... puis à Oldenburg, à Spa, à Bad, où j'ai accompagné les conseillers Hinz en qualité de subalterne. Oh, le pire des gredins, ce conseiller. Subalterne, valet. J'ai été valet durant 5 mois, aussitôt après ma sortie de prison. Car j'ai été en prison, à Oldenburg, pour dette. Un inconnu m'a racheté. Qui est-ce? Monsieur Astley? Paulina? Je ne sais. Mais les 200 thalers que je devais se trouvèrent payés, j'étais libre. Que pouvais-je faire? Je me suis engagé chez Ince. C'est un très jeune homme, frivole, paresseux. Mes talents lui étaient précieux, car je sais parler et écrire 3 langues. J'étais d'abord quelque chose comme secrétaire à 30 florins par mois, mais j'ai fini par descendre au grade de laquais. Il n'avait plus les moyens d'entretenir un secrétaire, et il réduisait mes appointements. ne sachant que faire, je dus rester malgré tout. En 7 mois, j'ai amassé chez lui 70 florins. Un soir, à Bade, je lui appris que j'allais le quitter, et le soir même, j'allais à la roulette. Oh, comme mon cœur battait! Non, ce n'était pas l'argent que je désirais. Ce que je voulais, c'était me venger de toutes les humiliations que m'avaient infligées les grandes dames de Bade et les majordomes et ce Hinze. Je voulais les voir tous s'agenouiller devant mon succès. Rêve, songe puéril, qui sait? Peut-être rencontrerai-je Paulina et lui prouverai-je que je suis supérieur à tous ces hasards de ma destinée. Oh, avec quel serrement de cœur j'écoutais les cris des croupiers. 31, père, passe, manque. Avec quelle avidité je regardais la table de jeu, couverte de louis d'or, de Frédéric d'or, les thalers, les petits monceaux d'or, quand ils s'écroulaient sous le râteau du croupier, brillant comme du feu. Or, ce soir-là, emportant mes 70 florins à la table de jeu, je savais que la date était pour moi importante. J'ai une préférence superstitieuse pour passe. Je mis donc 10 florins sur passe, et je les perdis. Il m'en restait 60 en monnaie d'argent. Je jetai mon dévolu sur le zéro et pontai 5 florins. À la 3e mise, le zéro sortit. Oh, je faillis mourir de joie en recevant 175 florins. J'étais moins heureux le fameux jour où j'en gagnais 100 000. J'ai mis aussitôt 100 florins sur le rouge. Je gagnais. 200 sur le rouge. Je gagnais. Tous les 400 sur le noir. Je gagnais. Tous les 800 sur manque. Je gagnais. Et au total, j'avais 1700 florins en moins de 5 minutes. Oh oui, à ces moments-là, on oublie tous les insuccès passés. J'avais risqué ma vie. J'avais gagné et j'étais de nouveau un homme. Je louais une chambre, je m'enfermais et jusqu'à 3 heures du matin, je restais debout occupé à compter mon argent. Je me réveillais homme libre. Je décidai d'aller à Hambourg où je n'avais jamais été ni domestique ni prisonnier. Quelques instants avant de partir, je me rendis à la roulette pour ponter 2 fois seulement, et je perdis 1500 roubles. Je partis néanmoins, et voilà 2 mois que je suis à Hambourg. Je vis dans la fièvre, je joue de très petites mises, j'attends quelque événement qui ne vient pas. Je passe des journées entières près de la table de jeu, et j'observe. Je joue même en rêvant. Je suis toujours comme engourdi. J'en ai pu juger surtout par l'impression que j'ai produite sur M. Astley. Mais nous sommes rencontrés, par hasard. Je marchais dans le jardin, calculant qu'il me restait 50 florins et que je ne devais rien à l'hôtel où j'occupais un cabinet. Je puis donc aller au moins une fois à la roulette, me disais-je. Si je gagne, je pourrai continuer le jeu. Si je perds, il faudra m'engager comme domestique ou comme utchitel. Tout en rêvant à ces ennuis, je traversais la forêt et passais dans la principauté voisine. Il m'arrivait de marcher ainsi 4 heures de suite, et je revenais à Hambourg, harassé et affamé. Tout à coup, j'aperçus M. Astley, qui me faisait signe de venir. Il était assis sur un banc. Je pris place auprès de lui. Il avait l'air préoccupé, ce qui diminua la joie que j'avais de le revoir. Oh, vous étiez donc ici? Je pensais bien vous rencontrer, me dit-il. Oh, ne vous donnez pas la peine de me raconter votre vie durant ces 18 mois. Je la connais. Bah, vous espionnez donc vos amis? Au moins, vous ne les oubliez pas. Ne serait-ce pas vous qui m'auriez libéré de prison à Rothenburg? Ah non, 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 non. Non, je sais pourtant que vous avez été en prison pour dette. Vous devez donc savoir qui m'a racheté. Non, je ne puis pas dire que je sache qui vous a racheté. C'est étrange. J'ai pourtant peu d'amis parmi les Russes. Et encore n'est-ce qu'en Russie qu'on voit les orthodoxes se racheter entre eux. Mais ils ne le feraient pas à l'étranger. Non, j'aurais plutôt cru à la fantaisie de quelque original anglais. Monsieur Astley m'écoutait avec étonnement. Il semblait s'attendre à me trouver plus triste et plus abattu. Je ne vous félicite pas d'avoir conservé votre indépendance d'autrefois, reprit-il sur un ton désagréable. Vous préféreriez me voir plus humble, dis-je en riant. Il ne comprit pas d'abord, puis ayant saisi ma pensée, il sourit. Votre observation me plaît. Je reconnais mon ancien ami, si intelligent, si vif et un peu cynique. Il n'y a que les Russes pour réunir des qualités aussi contradictoires. Vous avez raison, l'homme aime toujours avoir son meilleur ami humilié devant lui, et sur cette humiliation que se fondent les plus solides amitiés. Eh bien, exceptionnellement, je suis enchanté de vous voir si courageux. Dites-moi, ne voulez-vous pas renoncer au jeu? Oh, je l'enverrai au diable dès que. Oui, dès que vous aurez gagné une fortune. Vous l'avez dit malgré vous, et c'est bien votre sentiment. Dites-moi encore, vous n'avez rien en tête que le jeu? Non, rien. Il m'examina curieusement. Je n'étais au courant de rien, je ne lisais pas les journaux et n'ouvrais jamais un livre. Vous vous êtes engourdi, remarqua-t-il. Vous vous êtes désintéressé de la vie sociale, des devoirs humains, de vos amitiés, car vous en avez. Et vous avez même abandonné vos souvenirs. Je me rappelle le temps où vous étiez dans toute l'intensité de votre développement vital. Eh bien, je suis sûr que vous avez oublié vos meilleures impressions d'alors. Vos rêves d'aujourd'hui ne vont pas plus loin que rouge et noir, j'en suis sûr. Allez, c'est assez, monsieur Atelier, assez, je vous en prie. Ne me rappelez pas mes souvenirs, m'écriai-je avec rage. Sachez que je n'ai rien oublié. J'ai seulement chassé de ma mémoire le passé jusqu'au moment où ma situation aura changé. Et alors, vous verrez un ressuscité. Vous serez encore ici dans 10 ans. Je vous offre d'en faire le pari, et si je perds, je vous le paierai ici même, sur ce banc. Pour vous prouver que je n'ai pas tout oublié, permettez-moi de vous demander où est maintenant mademoiselle Paulina. Ce n'est pas vous qui m'avez racheté, c'est certainement elle, et voilà longtemps que je suis sans nouvelles à son sujet. Non, je ne crois pas que ce soit elle qui vous ait racheté. Elle est maintenant en Suisse, et vous me ferez plaisir en cessant de me questionner sur mademoiselle Paulina, dit-il d'un ton ferme et légèrement irrité. Ah, cela signifie qu'elle vous a blessé aussi, m'écriai-je en riant malgré moi. Non, mademoiselle Paulina est la plus honnête et la meilleure personne qui soit au monde. Je vous le répète, cessez vos questions. Vous ne l'avez jamais connue, et son nom prononcé par vous offense tous mes sentiments. Oh, vous avez tort. Jugez vous-même. De quoi parlerions-nous si ce n'est d'elle? Elle est le centre de tous nos souvenirs. Je vous demande seulement ce qui me concerne. pour ainsi dire, enfin, la position extérieure de mademoiselle Paulina. Et cela peut se dire en deux mots. Soit, à condition que ces deux mots vous suffiront. Mademoiselle Paulina était longtemps malade. Elle n'est même pas encore guérie. Elle a vécu quelque temps avec ma mère et ma sœur dans le nord de l'Angleterre. Il y a 6 mois, la babouchka, vous vous rappelez cette folle, est morte en lui laissant 7 000 livres. Elle voyage maintenant avec la famille de ma sœur qui est mariée. Son frère et sa sœur sont aussi avantagés par le testament et font leurs études à Londres. Le général est mort il y a 1 mois à Paris d'une attaque d'apoplexie. Sa femme le traitait à merveille, mais avait fait passer à son propre nom toute la fortune à la babouchka. Voilà. Et de Griet, voyage-t-il aussi en Suisse? Non, de Griet, je ne sais où. De plus, une fois pour toutes, je vous en préviens, évitez ces allusions et ces rapprochements tout à fait dépourvus de noblesse. Autrement, vous auriez affaire à moi. Comment? Malgré nos anciennes relations amicales? Oui. Mille excuses, monsieur Astley. Mais permettez pourtant, il n'y a là rien d'offensant. Je ne fais aucune allusion malséante. D'ailleurs, comparer ensemble une jeune fille russe et un Français est impossible. Si vous ne rappelez pas à dessein le nom de De Griet en même temps que l'autre nom, je vous prie de m'expliquer ce que vous entendez par l'impossibilité de cette comparaison. Pourquoi est-ce précisément d'un Français et d'une jeune fille russe que vous parlez? Ah, vous voyez, vous voilà intéressé. Mais le sujet est trop vaste, monsieur Astley. La question est plus importante qu'on ne pourrait le croire au premier abord. Un Français, monsieur Astley, c'est une forme belle, achevée. Vous, en votre qualité d'anglo-saxon, vous pourrez n'en pas convenir, pas plus que moi en qualité de russe, par jalousie peut-être. Mais nos jeunes filles peuvent avoir une autre opinion. Vous pouvez trouver Racine parfumée, alambiquée, et vous ne lirez peut-être pas. Je suis peut-être de votre avis, mais peut-être le trouverons-nous même ridicule. Il est pourtant charmant, monsieur Astley, et que nous le voulions ou non, c'est un grand poète. Les Français, que résument les Parisiens, avaient déjà des élégances et des grâces quand nous étions encore des ours. La Révolution a partagé l'héritage de la noblesse au plus grand nombre. Il n'y a pas aujourd'hui si banal petit Français qui n'a des manières, de la tenue, un langage, et même des pensées comme il faut, sans que ni son esprit ni son cœur y aient aucune part. Il a acquis tout cela par hérédité. Or, il est peut-être par lui-même vil parmi les plus vils. Eh bien, monsieur Astley, apprenez qu'il n'y a pas au monde d'être plus confiant, plus intelligent et plus naïf qu'une jeune fille russe. De Griet, se montrant à elle sous son masque, peut la séduire sans aucune peine. Il a de la grâce des dehors, et la jeune fille prend ses dehors pour l'âme elle-même et non pour une enveloppe impersonnelle. Les Anglais, pour la plupart, excusez-moi, c'est la vérité, sont gauches. Et les Russes aiment trop la beauté, la grâce libre pour se passer de ses qualités. Car il faut de l'indépendance morale pour distinguer les valeurs du caractère personnel. Nos femmes, et surtout nos jeunes filles, manquent de cette indépendance. Et dites-moi, quelle expérience ont-elles? Mademoiselle Paulina a dû pourtant beaucoup hésiter avant de vous préférer ce gredin de De Griet. Elle peut être votre amie, vous accorder toute sa confiance. Mais le gredin régnera toujours. Elle conservera son amour, même par entêtement, par orgueil. Mais le gredin restera toujours un peu pour elle, le marquis plein d'affable élégance libérale, et que sa demi-ruine paraît d'une grâce de plus. On a vu depuis percer à jour le faux bonhomme. Qu'importe ? Elle tient à l'ancien de Grillet. Il vit encore pour elle, et elle le regrette d'autant plus qu'il n'a existé que pour elle. Vous possédez une fabrique de sucre, monsieur Astley. Oui, je fais partie d'une entreprise de raffinerie, Lovell et compagnie. Eh bien, vous voyez, monsieur Astley, d'un côté un raffineur, et de l'autre Apollon du Belvédère. Moi, je ne suis pas même un raffineur. Je suis un joueur à la roulette. J'ai été domestique. Mademoiselle Paulina doit en être informée, car je vois qu'elle a une très bonne police. Vous êtes irrité, me répondit monsieur Astley avec le plus grand calme. Vos saillies sont sans originalité. J'en conviens, mais mon noble ami, n'est-ce pas précisément ce qu'il y a de plus affreux que ces clichés si vieux soient encore vrais? Nous n'avons donc, nous autres gens modernes, rien inventé. Nous voilà des paroles ignobles, car sachez, dit M. Astley d'une voix tremblante et les yeux étincelants, sachez donc, ingrat, malheureux homme perdu que vous êtes, sachez que je suis venu à Hambourg exprès, parce qu'elle m'a chargé de vous voir, de vous entretenir longuement et sincèrement, et prier de lui communiquer vos pensées, vos espérances et vos souvenirs. Vraiment, vraiment, m'écriai-je. Des larmes brûlantes coulaient de mes yeux. Je ne pouvais les retenir. Il me semblait que c'était mes premières larmes. Oui, malheureux, elle vous aimait. Et je puis vous le révéler, car vous êtes un homme perdu. J'aurais beau vous dire qu'elle vous aime encore, vous resterez ici cependant. Oui, vous êtes perdu. Vous aviez certaines facultés rares à un caractère vif. Vous étiez un homme de valeur. Vous auriez pu être utile à votre patrie qui a tant besoin d'hommes. Mais vous resterez ici. Votre vie est finie. Oh, je ne vous en fais pas un crime. À mon avis, tous les Russes sont comme vous. Ce n'est pas toujours la roulette qui les perd. Mais qu'importe le moyen. Les exceptions sont rares. Vous n'êtes pas le premier à ne pas comprendre la loi du travail. La roulette est le jeu des Russes par excellence. Jusqu'ici, vous étiez honnête. Vous préfériez servir plutôt que voler. Mais votre avenir m'épouvante. Allez, assez. Et adieu. Vous avez probablement besoin d'argent. Voilà 10 louis d'or. Allez les jouer. Prenez. Adieu, mais prenez donc. Ah non, monsieur Astley, après tout ce que vous venez de me dire. Prenez, s'écria-t-il. Je suis convaincu que vous êtes encore honnête, et je vous fais cette offre comme peut la faire un ami, un véritable ami. Si j'étais sûr que vous renoncerez au jeu et que vous retournerez dans votre patrie, je vous donnerais immédiatement 1000 livres pour le commencement de votre carrière. Mais non, 1000 livres ou 10 louis sont aujourd'hui pour vous la même chose. Vous les perdrez en tout cas, les prenez. Et adieu. Bon, je les prends, à condition que vous me permettrez de vous embrasser avant de vous quitter. Oh, cela avec plaisir. Nous nous embrassâmes et M. Astley partit. Non, il a tort. Si j'ai parlé de Paulina et du petit français sans assez de mesure, il en a tout à fait manqué en parlant des Russes. Je ne m'offense pas personnellement de ce qu'il m'a dit. Du reste, Tout cela, ce ne sont que des paroles, des paroles. Il faut agir. Le principal est de courir en Suisse, demain même. Oh, si je pouvais partir tout de suite, me régénérer, ressusciter. Il faut leur prouver que... Oh, il faut que Pauline le sache, je puisse être encore un homme. Il faut seulement... Oh, aujourd'hui, il est déjà trop tard, mais demain... Bon, j'ai le pressentiment... Mais non, peut-être autrement. J'ai 15 louis et j'avais commencé avec 15 florins. Si je me conduis avec prudence, et je ne suis plus un enfant, il ne se peut. Oh, je comprends donc pas moi-même que je suis perdu. Mais qui m'empêche de me sauver? De la raison, de la patience, et je suis sauvé. Je n'ai qu'à tenir bon une fois, et en une heure, je puis changer ma destinée. Il faut avoir du caractère, c'est l'important. Ah oui, j'ai eu du caractère cette fois. J'ai perdu cette fois tout ce que je possédais. Je sors de la gare et je retrouve dans mon gousset encore un florin. J'ai donc de quoi dîner, pensais-je, et je n'avais pas fait 100 pas que je retournais au salon de jeu. Je mis mon florin sur manque, et vraiment il y a quelque chose de particulier en ceci, un homme seul, loin de son pays natal, loin de ses amis, sans savoir s'il mangera aujourd'hui, risque son dernier florin, le dernier des derniers. J'ai gagné, et 20 minutes après, je sortais avec 170 florins dans ma poche. C'est un fait. Voilà mon dernier florin. Et que serais-je devenu si j'avais manqué de courage? Demain, tout finira.